France Culture.
Bonjour Patrick Baudry.
Bonjour.
Pour notre troisième entretien, cosmonaute à la Cité des Étoiles, nous allons terminer sur votre expérience de pilote chasseur qui va vous amener à votre nouveau métier de cosmonaute astronaute. Nous vous avions laissé à Salon en Provence au moment où vous êtes élève pilote. Et vous allez avoir votre diplôme. En 75, vous êtes commandant d'escadrille. Et j'aimerais revenir sur cette expérience de pilote, comment elle a pu nourrir aussi le futur cosmonaute astronaute. Comment vous voyez ?
Le métier de pilote, c'est d'apprendre à gérer un véhicule qui bouge sur tous les axes, qui est de plus en plus complexe et qui apporte quand même un degré de liberté et d'initiative à la personne qui le prend en compte, au pilote. Donc ce qu'on apprend, c'est, on a parlé de la discipline, hein, donc ça c'est évident, on va pas revenir sur la discipline à chaque truc, mais c'est quand même quelque chose qui aide. Donc il faut des procédures, des disciplines, le respect des autres, etc. Ça c'est une évidence. Mais au-delà de ça, il y a une part d'initiative qu'il faut être capable de développer pour justement gérer toutes les particularités de chaque aéronef, avion, hélicoptère ou autre. Donc le métier de pilote, c'est avant tout apprendre à gérer une machine qui bouge sur tous les axes et qui transporte des êtres humains. Donc il y a avoir un niveau de sécurité suffisant. Donc, pour en venir à pilote, quand vous faites vos premiers vols et qu'un jour vous pouvez piloter seul à bord, c'est une étape qui a été franchie, une étape importante, mais c'est loin d'être gagné. Parce que quand vous voulez être pilote de chasse, vous avez un certain nombre d'obstacles à franchir et qui sont de plus en plus difficiles. Et donc là, d'ailleurs, c'est ce qui est très bien expliqué dans le livre dont on parlait à l'émission précédente. L'étoffe des héros là de Tom Wolfe, c'est pas gagné quoi. Entre le moment où vous êtes élève pilote et vous êtes lâché tout seul sur votre avion et le moment où vous allez être qualifié pilote de chasse sur une machine beaucoup plus complexe et pour des opérations beaucoup plus complexes, là il y a un certain nombre d'étapes à franchir et il y a du déchet, beaucoup de déchets.
D'ailleurs, enfin, dans votre ouvrage aujourd'hui, le soleil se lève 16 fois. Vous évoquez l'un de vos maîtres, Maître Grelot, qui vous a formé.
Oui, Maître Grelot, oui.
Et ce qui m'a frappé, vous rendez hommage à la part d'initiative qui pouvait vous laisser et que du coup, vous avez pu apprendre plus vite et à bien doser les réponses en toutes circonstances.
Oui. Parce que le premier maître Grelot dont on parle, c'était quelqu'un qui était humainement très, très riche, très humain, très, oui. Et c'est important. Et qui m'a appris qu'il n'y avait pas que la part mécanique d'apprentissage par cœur et de procédure, il y avait autre chose au-delà. Et ça, c'est quelque chose que tout instructeur n'est pas capable de transmettre à son élève. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, quoi. C'est l'aspect humain, c'est le plus important. Et j'ai bien vu ça entre les Russes et les Américains. Ce sont deux cultures différentes et ce sont deux manières d'appréhender une machine technique complexe, deux manières donc très différentes. Chez les Russes, on emmenait dans le Soyouz, je veux dire, il y a quelque chose comme 18 kilos de checklist papier, de procédure papier. À bord du shuttle, on avait 300 kilos de procédure papier. Et les Américains, chaque chose qu'ils faisaient, il fallait que ça soit selon la checklist. Et pour moi, c'était quelque chose d'insupportable. Et c'est pour ça que...
Procéduriers aussi.
Oui, ils ont besoin de plus de monde, de plus de temps pour faire la même chose. Et ensuite, quand j'étais pilote de chasse dans l'armée de l'air française, qu'on faisait des manœuvres interalliées avec les Américains, on se rendait compte qu'avec 60 avions, ils faisaient pratiquement ce qu'on faisait avec 10 avions. parce que nous, on a beaucoup plus d'initiatives, de souplesse dans l'exécution, dans la décision. Et moi, j'ai bien vu ça chez les Russes, chez les Américains. Chez les Russes, 15 kilos de papier. Chez les Américains, 300 kilos.
Et de même, chez les ingénieurs, vous rendez aussi hommage aux ingénieurs français. On peut faire un peu cocorico de temps en temps, notamment au moment où vous avez votre belle expérience Airbus après le vol avec les Américains en 85, quand vous avez travaillé avec Airbus. Mmh. Et vous dites que 10 ingénieurs français faisaient ce que 100 ingénieurs américains et avec une idée de rupture. Et puis que malheureusement, après, on s'est engagé dans un modèle plus conformiste.
Oui, c'est malheureusement vrai, quoi. On s'est engagé sur la voie de la standardisation, de procédures à tout prix, de ne pas pouvoir en sortir. Et donc, c'est quelque chose qui amène, en un sens, plus de sécurité, de sûreté d'emploi, mais dans un autre sens, qui est un frein au progrès, hein, et à l'évolution.
Continuer sur les différences russes-américains, j'anticipe un peu sur la suite de l'entretien d'aujourd'hui. On m'a raconté que Soyouz, il y avait plus de choses mécaniques à l'ancienne, et donc avec cette part d'initiative, voire à un moment donné, vite, de déployer un parachute tout seul avec une manivelle.
Ouais.
Là où chez les Américains, tout de suite, l'électronique arrive très vite, il y a beaucoup plus de capteurs, et que du coup, cette électronique, tous ces capteurs, finalement, ça enlève peut-être de la marge de manœuvre. Quel est votre regard, quelle est votre expérience
sur le sujet ? Ça amène quelque part une lourdeur, et puis en cas de panne, c'est aussitôt beaucoup plus compliqué. Non, c'est vrai que dans le Soyouz, je vous donnais un autre exemple. Figurez ce que je veux dire. Quand on arrive dans l'espace à bord d'un Soyouz, la première chose qu'on fait, c'est ouvrir la boîte à pharmacie, le tiroir, oui, à pharmacie, et prendre un tube dont le contenu a été remplacé par un technicien à Baïkonour avant le lancement. Le médicament a été remplacé par du cognac. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est prendre le tube où il y a le cognac et une goutte chacun, parce qu'on est arrivé en orbite, que voilà, c'est une étape extrêmement importante.
Il y a l'alcool dans l'espace.
Voilà. Chez les Américains, c'est impensable. Complètement impensable. C'est même, sur tout véhicule de transport maritime, aérien, terrestre, des États-Unis d'Amérique, il est strictement interdit de consommer de l'alcool. Comme si mettre une goutte d'alcool sur la lèvre, c'était consommer de l'alcool. Vous voyez, c'est un peu la limite de la procédure. Entre les mots qu'on utilise et la réalité, des fois, il y a un pas important. Et on est incapable de le faire parce que, voilà, là, c'est marqué comme ça, donc il faut faire comme ça. Et c'est quelque chose, c'est ce qui fait foirer un nombre de procédures que font les gendarmes lorsqu'ils attrapent un malfrat. Il faut que toute la procédure soit parfaitement... Alors, c'est des pages et des pages pour un truc très simple. Il a volé, on était là, on l'a vu... On le met en tôle et on le fait juger. Non, il faut remplir eh ben, nous, c'est pareil, quoi. Donc, chez les Américains, il y a une lourdeur qui fait que, ben, finalement, il y a moins d'efficacité. On fait moins de choses dans le même temps. Et en cas d'imprévu, les choses peuvent être même très compliquées. Alors que chez les Russes, une fois qu'on sait faire le job avec la procédure, les bouquins, on les ouvre plus. Hein, c'est l'homme qui réagit en fonction de ce qu'il sait, ce qu'il a compris et des procédures qu'il a apprises. On n'a pas besoin de reprendre la checklist à chaque fois. Chez les Américains, il faut sortir la checklist. Ils sortaient la checklist pour prendre des photos avec un Hasselblad. Donc, pour vous situer un peu le niveau du problème.
Là,
donc,
vous,
simplement,
photos,
ils sont différents de nous, parce qu'ils ont des plus gros moyens et qu'ils sont habitués à fonctionner avec beaucoup de moyens et que nous, on a une expression dans l'armée de l'air que j'aimais beaucoup, que j'utilise toujours, et il faut fonctionner avec la bite et le couteau. Alors, je sais qu'aujourd'hui, en 2025, dire ça, c'est un peu... Mais la bite et le couteau, voilà.
C'est se débrouiller. Les femmes aussi, l'emploi.
L'armée française. Alors maintenant, il y a des femmes dans l'armée. Alors peut-être qu'ils ont une autre expression.
Non, je crois qu'on l'emploie, aussi. Oui, moi, ça m'arrive, je pense. Ouais. Et ça veut dire voilà, qu'on se débrouille. Et je pense qu'il faut savoir utiliser le système D. Puis on va peut-être être confronté à des situations plus difficiles que par le passé. Là, on est dans un monde très, très changeant. Et peut-être qu'on va devoir réapprendre des savoir-faire. Aujourd'hui, les créateurs de logiciels craignent le de-skilling, la perte de compétences, à la fois pour les hommes et les machines. Et surtout, ils sont très admiratifs de ce qu'on peut faire avec la main, la dextérité, ce qui est lié au cerveau. Et derrière, ils essaient d'étudier, de comprendre comment on fonctionne aussi avec nos cinq sens. Et donc, cette marge de manœuvre, l'homme qui était remplaçable, elle est là parce que la machine... l'articulation entre l'expérience, la vue, le toucher, elle aura peut-être du mal. Et c'est là où votre témoignage peut être intéressant. Est-ce que, en même temps, j'imagine que vous êtes dans la vitesse. Est-ce que derrière, vous aviez un carnet le soir? Parce que souvent, je pense par exemple, De Gaulle, il avait son journal et puis il notait tout. Est-ce que vous aviez un journal? Est-ce que vous notiez les événements de la journée? Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que vous aviez un retour comme ça? Ou en dehors de celui que vous pouviez avoir dans le cadre
C'est marrant ce que vous dites, parce que j'avais un excellent ami qui était journaliste, qui était Germain Chambost, qui travaillait à Sud-Ouest. Et il me disait, à chaque fois qu'on se voyait, il me disait, tu sais Patrick, j'espère que tous les soirs tu notes le truc. Je lui dis, Germain, non, je note rien. Et je pense qu'il avait raison, bien sûr, et moi je suis trop feignant pour faire ça. Et puis je fais trop de choses, jamais une demi-heure tranquille pour noter, vous voyez. Donc je suis pas dans ce schéma. Donc je sais que j'aurais dû le faire, mais je l'ai jamais fait. Et donc il y a des tas de choses que j'ai perdu de vue, de mémoire et tout, mais c'est comme ça, je l'ai pas fait.
Alors on va revenir sur le moment où vous avez votre brevet de pilote de chasse. Donc après Salon, vous allez partir à Tours, gagner le 5e escadron. Et là, vous allez voler sur le Mystère 4 de Dassault. Donc il y a des vitesses très élevées à 420 nœuds. Et sur cet avion, j'ai noté que vous avez fait des exercices tir au canon, largage de bombes. Donc là, on est dans les années 70. Donc, du coup, c'était quoi être pilote de chasse dans les années 70? On est en guerre froide, il y a la guerre froide, voilà. Mais la France a pas de guerre déclarée. Alors après, il y a des missions. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que vous allez, est-ce qu'il y a d'autres missions que les missions d'exercice? Comment ça se passe? C'est quoi votre vie de pilote de chasse à ce moment-là?
Pilote de chasse, c'est d'abord savoir servir d'un avion qui est une arme. Hein, il faut jamais l'oublier. Donc, un avion de chasse, c'est un avion qui est destiné à délivrer une bombe au bon endroit, à tirer au canon sur la bonne cible et la toucher, etc. Ou un missile, maintenant, avec le Rafale, où c'est beaucoup plus complexe et où les armements sont plus sophistiqués. Donc, il faut apprendre ça, bien sûr. Et à cette époque, disons, dans les années 70, l'opération la plus, disons, critique, c'était d'intervenir en Afrique, c'est-à-dire d'effectuer un ravitaillement en vol, ensuite de délivrer l'armement sur un objectif. À l'époque, il y avait le Tchad, il y avait un certain nombre d'endroits où on a déposé des colis plus ou moins explosifs et létaux. Et donc voilà, à chaque époque, il y a une menace et il y a une manière d'y répondre. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'en Afrique, on n'y fait plus rien parce qu'on était mis dehors de tous les pays, donc on va plus aider personne.
Les Russes et les Chinois ont investi le terrain aussi.
Et donc l'armée de l'air, eh bien, elle s'entraîne pour être opérationnelle et répondre à une menace. Alors après, il y a une menace, bon, je ne veux pas rentrer dans les considérations politiques, mais enfin, il y a les menaces qu'on invente et puis il y a les menaces réelles. Mais toujours est-il que militaire, ça consiste à savoir utiliser une arme pour ou se défendre ou détruire un ennemi. En fait, c'est ça. Donc en temps de paix, il faut vous entraîner pour que vous puissiez remplir cette mission le mieux possible si on a besoin de vous.
Voilà, si on a besoin de soi. Et puis aussi, il y a toujours aussi, si on a une armée entraînée avec des instruments, des moyens techniques qui marchent très très bien, ça fait partie aussi d'une forme de dissuasion. Alors, ça n'a pas la force du M51, mais voilà, on sait qu'en face, on a une armée de métier. Ce qui fait aussi que la France et la Grande-Bretagne, de ce point de vue-là, au sein de l'Europe, avaient ou ont encore un poids aujourd'hui avec, avec cette armée de métiers.
Je vous avoue que je suis incapable de répondre à ça et je me pose beaucoup de questions sur la capacité de la France et de l'Europe à répondre à certaines menaces. Et donc, je préfère m'abstenir de répondre. Je pense que ce qui se passe en Ukraine est assez démonstratif du nouveau type de conflit qui peut arriver. Et je suis pas certain qu'on soit capable de, aujourd'hui, instantanément, dans un an, dans cinq ans, ce sera différent, j'espère, de répondre à ce type de conflit, franchement.
Pour revenir sur votre entraînement en Afrique, j'ai été frappée par le récit d'une mission à Djibouti en décembre 1971, sous les ordres du commandant Solané. Voilà, vous étiez sur un F-100, donc, ouais. Donc là vous décrivez un appareil lourd avec une certaine inertie, et puis le grand public se rend pas toujours compte aussi de l'effet de la chaleur, du sable, ou la proximité de la mer, ou du brouillard, enfin selon les contextes, pour ces objets de haute précision que sont les avions de chasse, et donc vous êtes descendu sous le plancher. Qu'est-ce qui s'est passé?
Quand vous tirez sur un objectif, plus vous tirez près et plus vous tirez bas, plus vous avez de chances d'atteindre l'objectif. Bon, donc, comme dans toute activité, on édicte des règles pour protéger les pilotes. Donc, on dit, on descendra pas en dessous de telle altitude, on s'approchera pas pour tirer à moins de telle distance, etc., etc. Mais ceci dit, si vous voulez être efficace, vous savez très bien que en allant plus près, vous allez avoir plus de chances de tirer juste. Et donc, à ce moment-là, vous allez plus bas, étant donné que votre trajectoire est descendante. Donc, à Djibouti, c'est vrai que j'avais tendance à aller un peu plus bas, voire beaucoup et plus près. Et que mon chef de l'époque, le commandant Solané, qui était quelqu'un vraiment de génial, et il avait peur pour moi, ce qui est normal, hein, puisque j'étais un de ses petits. Et donc, il m'a remonté les bretelles, comme on dit, pour que je prenne plus de précautions, disons, pour tirer. Voilà.
Et du coup, une semaine d'arrêt avec...
Semaine d'arrêt, oui, c'est vacances.
Voilà.
C'est une semaine de vacances.
Et vous en avez profité pour courir, pour...
Voilà, à l'époque, je courais beaucoup. C'est-à-dire, je suis arrivé à Djibouti en pesant, je ne sais pas combien, peut-être 85 kilos. Et j'en suis parti en pesant 67 kilos. Donc en 3 mois, j'ai perdu un peu moins de 20 kilos en courant aux heures les pires. C'est-à-dire entre midi et 1 heure. Rien, à la place de Djibouti, c'est... Et puis voilà quoi. Donc, je me suis occupé utilement, parce que ça m'a été bien utile pour repartir avec une marge d'erreur, enfin de grossissement, disons.
Et en même temps, cette course, ce jogging avant l'heure, il revient souvent dans vos mémoires ou en interview. Vous dites souvent que c'est un moment où vous pouvez réfléchir. Mmh. Il y a une très jolie séquence que vous évoquez justement aussi à la Cité des Étoiles. Là, on est à 40 km de Moscou. Mmh. Entre-temps, vous avez été sélectionné par le CNES et vous partez avec Jean-Loup Chrétien. Vous êtes les deux astronautes français dans le cadre d'un accord entre la France et l'Union soviétique pour partir dans l'espace. Et vous partez courir. Donc, il y a les Mélèzes, il y a les petites maison en bois, un peu plus loin il y a les dachas et ça revient, et aux États-Unis aussi quand vous êtes à Houston, je crois, voilà, il y a des séquences aussi où vous courez, donc ça...
Oui, parce que courir, enfin, c'est maintenant c'est une mode. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils appellent du jogging. À l'époque, je courais 5, 10, 20, 30 kilomètres sans problème. Et pendant ce temps, on pense d'une manière beaucoup plus efficace. Et on est tranquille et on peut penser à ce qu'on veut et on peut réfléchir à ce que l'on veut. Et en même temps, quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas, un endroit qu'on ne connaît pas, où on n'a pas le droit de prendre sa voiture pour des raisons de sécurité de tous ordres, ça permet de larguer les... en Russie, si vous voulez, ça me permettait de larguer tous ceux qui voulaient pas que je sorte de la cité, quoi. Et de courir 20 kilomètres, de voir les villages, de voir les gens, etc. Et c'est une manière de vraiment pratique de semer ceux qui sont chargés de votre surveillance.
Et un peu comme avec votre moto dans les années qui voilà. précèdent, quand vous partez dans la campagne autour des
Tout
villes.
Tout à fait. Oui. Le fait de se déplacer de manière autonome, ça permet d'avoir cette liberté. D'être seul, d'observer le monde autour de vous, les gens, d'une manière tout à fait indépendante et personnelle. Quoi. C'est intéressant. Alors maintenant, je marche, je cours plus, bon, c'est comme ça.
Alors après la période pilote de chasse, est-ce qu'il y avait un ennui ou l'envie de creuser plus loin, de continuer à apprendre? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous présenter au centre d'essai en vol à Brétigny pour devenir pilote d'essai? Quel est le détonateur? Qu'est-ce qui fait que vous partez vers cette nouvelle activité?
Eh bien, si vous voulez, j'ai toujours été curieux de tout. Et donc, la routine, c'est quelque chose qui ne convenait pas beaucoup, pas bien. Et donc, à chaque fois que je fais le tour d'un problème, j'aime bien trouver un autre problème à creuser, à élucider. Et donc, quand vous êtes pilote de chasse, bon, c'est le rêve, un rêve qui s'est accompli. Et ma période de pilote de chasse, c'est une des plus belles parce que vous avez une camaraderie dans un escadron que les gens n'imaginent pas, quoi. Moi, j'ai découvert la vie civile, entre guillemets. Après mon vol dans l'espace, et quand je suis rentré à l'aérospatiale comme conseiller du président, et là j'ai vu, si vous voulez, dans le civil, quand on dit oui, ça veut pas dire toujours oui, quand on dit non, ça veut pas dire toujours non. C'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné au début, il m'a fallu du temps pour m'adapter. Moi je venais d'une famille, d'un monde, celui de l'aviation de chasse, où quand on dit oui, c'est oui, quand on dit non, c'est non. C'est très schématique, mais ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, là, j'avais envie d'abord de piloter des machines plus évoluées, différentes. Et les machines les plus évoluées, c'est celles que vous allez construire pour demain. Et donc, pour ça, il fallait devenir pilote d'essai. Et dans le monde occidental, il y a trois écoles principales. Enfin, il y a un peu plus. Enfin, les trois principales écoles de pilote d'essai, elles sont en France à Istres, ce qu'on appelle l'EPNER. En Angleterre, à Boscombe Down, c'est ce qu'on appelle DPS, et puis aux États-Unis, à Edwards. Donc, l'idéal, c'était bien sûr de faire une école de pilote d'essai à l'étranger, de manière là aussi à découvrir encore plus de choses, à apprendre plus de choses. J'ai posé ma candidature, il y a un concours, là aussi, c'est une étape qui n'est pas facile, disons. Et je me suis retrouvé à l'ETPS, école de pilote d'essai britannique.
Là encore, vous êtes revenu avec des prix et major de promo. Et vous avez reçu la Patuxent River Trophy et Best Student. Et ça a été remis par le prince Charles.
Le prince Charles, qui était prince à l'époque, lui aussi, il est monté en grade. Hein. C'était un jour assez sympa et j'avais été chargé par l'école de sélectionner les vins pour le repas avec le prince Charles. Donc déjà j'étais expert en vin. C'est un domaine aussi qui m'a toujours passionné.
Et c'est au centre d'essai en vol de Brétigny qu'un jour vous trouvez la possibilité de présenter le concours pour le CNES. On cherche donc des astronautes pour partir en Russie. Ce qui me frappe, c'est que Claudie Anneret, il y a quasiment 10 ans entre vous deux, parce qu'elle, elle est 11 ans plutôt. Et pareil, c'est tout à fait par hasard qu'elle tombe sur l'annonce et qu'elle va postuler. Donc, vous avez hésité beaucoup avant d'envoyer votre candidature. Enfin, je crois que vous avez téléphoné tout de suite pour vous renseigner.
Ah, j'ai pas hésité une seconde. C'était une possibilité d'aller dans l'espace. C'est quelque chose que, enfin, je me suis même posé la question. J'ai téléphoné aussitôt, mais sans y croire, parce que ça me paraissait inatteignable. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats, plusieurs centaines ou milliers, et il y avait deux places. Donc mais bon.
Il y avait une femme qui a fait partie de la dernière ligne droite, Françoise Vanier, qui était scientifique. Et la pauvre, c'est le saut en parachute qui va être fatal à son projet.
Oui,
vous étiez avantagé, peut-être avec Jean-Luc Chrétien, qui était aussi officier.
Parmi les activités qu'on a faites pendant la sélection, il y avait un saut en parachute. Et Françoise, c'est cassé, je ne sais même pas quoi, la cheville, le truc. Donc. Et les Russes ont sauté. De toute façon, les Soviétiques n'auraient jamais accepté une femme.
Ah.
Ça, c'est clair. Hein. Mais les Français vivent, comme aujourd'hui, vivent toujours dans une illusion. Vous voyez, ils voulaient une polytechnicienne et une femme. Bon, ils ont eu deux militaires, parce qu'on avait le profil qui correspondait le mieux à ce qu'avaient demandé les Soviétiques. C'est aussi simple que ça. Et il faut pas imaginer que les Soviétiques, en quelle année, en 79-80, qui n'avaient fait voler à l'époque qu'une seule femme dans l'espace, auraient fait voler une femme d'un pays étranger.
Autre.
Il fallait être vraiment français et crédule pour croire des choses pareilles. Donc ils ont saisi l'occasion pour éliminer Françoise, sous le prétexte qu'elle avait des critères de recalcification insuffisants, ce qui est vraiment une plaisanterie, enfin c'est comme ça. Donc exit Françoise, la pauvre, qui aurait mérité au moins autant que nous d'aller dans l'espace, et voilà.
Voilà, elle avait passé le plus dur, entre ouais. guillemets. Je vous donne rendez-vous demain pour notre quatrième entretien, Discovery et ses 16 levées de soleil par jour. Donc on sera à bord de la navette et on continuera notre exploration à la fois de votre entraînement et de votre apprentissage du métier de cosmonaute astronaute. Merci Patrick Baudry.
Merci et à demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Guillaume Baldi, documentaliste Anne-Lise Signoret et Christine Anzano, une série de Meryl Moneghetti, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.